Bienvenue dans le débat. Comment est-ce qu'on gagne une élection quand on traverse une récession sévère, avec genre 3 millions de chômeurs et des sondages qui vous donnent tous perdants?
Ouais, ça paraît très mal parti.
Exactement. Et pourtant, en avril 1992, le Premier ministre conservateur John Major l'a fait au Royaume-Uni. La question centrale de notre discussion aujourd'hui, c'est est-ce que les travaillistes de Neil Kinnock ont bêtement perdu cette élection par excès de confiance, ou est-ce que John Major a, disons, arraché cette victoire grâce à une vraie stratégie de terrain? Moi, je suis persuadée que le désastre médiatique et, franchement, l'hubris de Kinnock ont totalement scellé ce scrutin.
Et de mon côté, je vais soutenir que c'est le pragmatisme électoral de Major qui a été le vrai moteur. C'est pas juste un rejet de la gauche, c'est une victoire activement conquise.
Bon, on cherche souvent des explications macroéconomiques très pointues, mais des fois, la psychologie d'une élection, ça tient à, une seule image.
Ah, je sens que vous allez nous parler du 1er avril.
Forcément, la fameuse patinoire de Sheffield. Kinnock a transformé un rassemblement politique classique en une sorte de convention à l'américaine délirante. Il hurlait sa victoire avant même le vote.
C'est vrai que les images sont...
Elles sont terribles. Imaginez une direction d'entreprise qui sable le champagne pour fêter une fusion alors que les employés ont peur des licenciements. Dans un pays en pleine crise, cette arrogance a juste terrifié les électeurs silencieux.
Je suis tout à fait d'accord que l'image de Sheffield est marquante, mais enfin, réduire tout ce scrutin à un faux pas de communication, je trouve que ça invisibilise complètement l'ingéniosité des conservateurs. Major n'a pas juste profité d'une erreur.
Mais qu'est-ce qu'il a fait de si exceptionnel alors?
Il a créé un contraste psychologique dévastateur. Face au spectacle très clinquant de Kinnock, il a sorti quoi? Un simple marchepied en plastique.
Ouais, le fameux Soaks Box.
Voilà, un marchepied, un porte-voix... Et s'est mis à parler aux gens sur les marchés. Pourquoi ça a marché? Parce que au milieu d'une récession, ça communiquait de l'empathie, de l'humilité, vous voyez, et l'idée d'un effort partagé.
De l'humilité, peut-être. Mais j'ai du mal à croire que ça suffisait face à la peur de l'avenir. Parce que la presse a vraiment cristallisé cette angoisse. Vous vous rappelez de la une du tabloïd The Sun?
Ah oui, celle qui disait... que la dernière personne à quitter la Grande-Bretagne éteigne la lumière.
Précisément. Ils avaient carrément incrusté le visage de Kinnock dans l'ampoule. Et c'était pas juste une caricature de mauvais goût.
Non, c'était particulièrement féroce.
C'était l'incarnation visuelle de la peur d'une fuite des capitaux sous un gouvernement de gauche. Et pour moi, c'est cette panique viscérale, bien plus que le petit marchepied de Major, qui a vidé les urnes travaillistes.
Mais attendez, il y a une donnée qu'on ne peut pas balayer comme ça. 14 millions de voix. C'est le record absolu de l'histoire britannique. C'est une adhésion active à sa méthode. Pas juste une fuite face à l'ampoule de Kinnock.
Vous pensez vraiment que c'était une adhésion politique? Surtout que le programme de Kinnock, avec sa hausse d'impôts ciblant les très riches, passait plutôt bien dans les sondages à l'époque.
C'était pas que de l'optique, et les résultats de la nuit électorale le prouvent. Prenez Basildon. C'est une banlieue ouvrière de l'Essex, le baromètre historique du vote national. Personne. Mais vraiment personne n'imaginait les conservateurs conserver ce siège.
C'était censé basculer à gauche sans problème.
Et pourtant, ils l'ont gardé avec une marge super confortable. C'est la preuve empirique que le message de Major, sans filtre, au ras du trottoir, a touché la classe populaire et consolidé une base qui semblait perdue.
Je veux bien vous accorder Basildon, mais parlons du résultat global. Si son approche de rue était un succès si foudroyant, comment vous expliquez la maigreur de la victoire ?
21 sièges de majorité au Parlement.
Bon, le système électoral britannique...
C'est microscopique. Si ces fameuses 14 millions de voix signifiaient un mandat incontestable, Major n'aurait pas été immédiatement paralysé. Cette marge infime l'a rendu otage de sa propre aile droite. Dès les débats sur Maastricht, cette prétendue force s'est évaporée.
Je reconnais que la fragilité de sa majorité est réelle, oui. Et ça a rendu son mandat extrêmement chaotique. Mais on ne peut pas ignorer l'impact structurel de cette élection. En gagnant sur son marchepied, Major a forcé la gauche à se réinventer complètement.
Vous parlez de l'arrivée du New Labour, j'imagine.
Absolument. Sans la claque du 9 avril, le parti n'aurait jamais compris que les grands rassemblements triomphalistes ne suffisaient plus. John Smith, puis Tony Blair, ont dû réécrire tout le logiciel de la gauche. Major a littéralement dicté les termes de la décennie suivante.
Bon. Ce scrutin a clairement accouché d'une nouvelle ère politique pour les deux camps. Mais je maintiens que ce bouleversement est né avant tout du suicide médiatique de la gauche à Sheffield qui a transformé une victoire annoncée en naufrage.
Et je continuerai d'affirmer que c'est la contre-programmation humble et directe de John Major qui a forgé ce retournement historique.
Ce qui est sûr, et ce que ceux qui nous écoutent retiendront sans doute, c'est qu'au-delà des projections, l'humeur d'une nation se joue très souvent sur des perceptions viscérales.
Oui, et que le silence de l'isoloir est toujours plus fort que le bruit des rassemblements.
Tout à fait. La prochaine fois que vous verrez un candidat célébrer aveuglément les promesses d'un sondage, demandez-vous ce qui se joue réellement loin des caméras. Merci de nous avoir suivis, et il y a encore beaucoup à analyser sur ce sujet, alors continuez d'explorer.